Je suis. On est venu à l'origine à partir d'une invitation de Patrick. L'année dernière, je faisais partie du fameux groupe sur la maternelle, le séminaire maternel, où il s'est passé ce que a raconté tout à l'heure Patrick au début, c'est-à-dire qu'il nous a présenté une vidéo et nous a fait réagir, nous chercheurs ou différents types de praticiens, et on s'est rendu compte que on avait vraiment des réactions très différentes, voire relativement clivées. Voilà. Donc moi, je suis parti de cette expérience-là en me disant que peut-être que le mieux, c'était aussi de proposer de travailler à partir de vidéos, mais avec un aspect assez particulier, vous allez voir, parce que on va commencer à se présenter. Hein. Moi, je suis Christophe Joigneau. Bon, vous en seriez douté, mais je suis enseignant-chercheur. J'ai fait une thèse sur la construction des inégalités scolaires dès l'école maternelle, donc une approche un peu sociologique. Bon, j'ai pas mis les références, mais je pourrais vous en donner. Mais j'ai pas fait que ça dans ma vie, c'est-à-dire que pendant une bonne partie de la réalisation de la thèse, j'étais aussi praticien, professeur des écoles. J'ai commencé en Seine-Saint-Denis, puis j'ai terminé à Paris. Je pense que c'est important que vous sachiez pourquoi je suis là et quel point de vue je peux avoir par rapport à ça. En ce moment, je suis enseignant-chercheur, j'ai pas besoin de tenir le micro, après tout, il tient tout seul, à Livry-Gargan. Donc, retour en Seine-Saint-Denis, j'ai fait pendant quelques années, j'ai été enseignant-chercheur à l'ESP du Nord, Pas-de-Calais, ou je sais pas, Nord-Île-de-France. Non, à l'époque, c'était UFM. Maintenant, c'est SP dans l'Île-de-France, où j'ai rencontré Isabelle Bastide, qui a été une année seulement mon étudiante, en M1. Voilà, mais je t'avais promis que tu te présenterais toute seule, donc j'ai commencé à te présenter, maintenant tu peux y aller.
Donc, Isabelle Bastide, donc moi maintenant je suis enseignante dans l'Académie de Lille, rattachée à la circonscription de Valenciennes et Caudin. Donc je suis T1 cette année. En parallèle, j'ai été intégrée au chantier académique de la première scolarisation dirigée par l'inspectrice départementale chargée de la mission maternelle Sylvie Monin, qui fait partie, je crois, de ce groupe. Et en parallèle de cette vie professionnelle, moi, je continue la recherche. Donc, comme Christophe Joigneau l'a dit, j'ai été étudiante à l'UFM en M1, mais j'ai fait le choix de faire mon M2 à l'Université de Lille 3, où donc j'ai continué à m'intéresser à l'école maternelle. Et donc, j'ai eu mon M2 et je continue donc en thèse dans cette veine-là. Voilà.
Ah bon? Voilà. Petite présentation, parce que c'est toujours important de savoir de quel point de vue on parle. J'ai oublié de vous dire que je suis retourné à Paris. Alors, je vous ai dit quel était mon poste à l'ESP, mais mon groupe de recherche, enfin mon labo d'appartenance, c'est ESCOL. Bon, ça vous parle sans doute. J'en venais, j'y suis revenu. Mais faut pas que ça vous arrête complètement sur le point de vue que vous pourriez développer sur ce que je vais dire. Je suis à ESCOL, mais pas seulement à ESCOL. J'ai été praticien, j'ai été chercheur. Elle, c'est pareil. Je pense que c'est ça qui est important qu'on a essayé de faire. Si on est là tous les deux aujourd'hui, c'est parce que on a ces aspects-là et qu'on a vraiment voulu croiser quelque chose qui me paraît très important. Depuis que j'enseigne à l'UFM puis à l'ESP, c'est le croisement des sphères d'expertise professionnelles et scientifiques. On a beau le décrire, le prescrire, le décréter, je veux dire, le prescrire, j'allais dire le proscrire, lapsus révélateur, mais c'est très très compliqué de travailler, d'essayer de croiser. On n'a pas beaucoup d'espace et pas beaucoup de moments pour le faire, paradoxalement, en ce moment, en formation initiale. Mais je me pose des questions aussi à ce propos sur la formation continue, mais bon, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Et ce que j'ai observé, c'est que le fait qu'il y ait des sphères d'expertise qui constituent le terrain d'un côté et la recherche de l'autre, et que le fait que ces deux sphères aient du mal à se croiser, que ça soit très cloisonné, ce que je ressens très fort, c'est que ça constitue des dégâts considérables, mais à tous les niveaux, à la fois pour les former, en particulier quand ils sont en M2 et qu'on leur dit que bah, il faut qu'ils travaillent vraiment leur mémoire de recherche. Donc des dégâts considérables, mais pour les étudiants, on voit qu'on leur demande beaucoup de choses à faire en même temps et l'initiation à la recherche, on peut se demander jusqu'à quel point c'est une initiation à la recherche, compte tenu du temps dont on dispose, mais aussi des dégâts, on peut le voir en termes, je fais aussi en ce moment une recherche sur l'entrée dans le métier, c'est pour ça que je parle un peu de ça, en termes d'envie de faire le métier et le niveau d'engagement qui en découle de la part de ces débutants pour faire réussir tous les élèves. Là, ce que j'ai essayé de privilégier aujourd'hui, c'est une espèce de vous présenter comment on pourrait collaborer différemment en ayant beaucoup plus de temps, hein, parce qu'on a été placé dans des conditions assez idéales, c'est-à-dire qu'on s'est sorti des institutions pour pouvoir le faire. Une sorte de compagnonnage, on a fait une espèce de tentative de compagnonnage chercheur-praticien, sachant qu'on avait plus ou moins le double statut, ce qui a sans doute facilité les choses. Ce qu'on va vous présenter là, c'est quelque chose que ce sont des pratiques où vous allez voir Isabelle, des démarches dont qu'elle a élaborées toute seule. J'ai participé à aucun moment à cette élaboration-là. Pourtant, je l'ai fait venir. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup travaillé en amont, plus sur un plan conceptuel et théorique. On a réalisé tous les deux un article sur les lectures partagées à l'école maternelle, les différents types de pratiques qu'on peut observer. Donc on a fait l'observation de pratiques, ses propres pratiques ou d'autres enseignants. On a fait des comparaisons, hein. C'est paru dans Spirale de 53, voilà, 2014. Donc on a pu préparer dans un temps long, hein, on a discuté sur le plan théorique, sociolinguistique, hein, par rapport à ce qu'on va au moment de la rédaction de cet article. Et puis après, bon, il s'est trouvé que, bon, pour différentes raisons, je l'ai laissé débuter, enfin plus ou moins, hein, mais et en tout cas, les démarches que vous allez voir, je n'ai pas du tout participé. Or, ce qui a été assez confondant, c'est que quand j'ai vu les films, la présentant, c'est pas moi qui l'ai filmé, c'est l'institution qui a décidé. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de la faire venir. J'ai trouvé une certaine cohérence assez confondante par rapport à moi, mon cadre d'analyse, à mon ancrage théorique. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une migration, une transposition, mais sans que j'ai vraiment participé au moment de l'élaboration. Je dis ça par rapport à d'autres démarches, hein, où le chercheur est beaucoup plus impliqué dans les différents temps de conception et d'élaboration. Ce qu'on va vous présenter là, tout à l'heure, hein, il ne faut pas que je m'entende, d'accord. C'est un exemple de pratique d'enseignement et d'apprentissage de l'oral, que moi j'ai trouvé intéressante au sens où elle mérite intérêt. Pas parce qu'elle serait efficace, j'en suis pas là pour... Je peux pas répondre à ce genre de questions. Je sais que certains y répondent. Bon, on essaye de construire des outils pour vérifier ça avec Sylvain Brocolicchi, avec qui je travaille, mais pour le moment, j'en suis pas là. Mais je les trouve intéressantes parce que on voit un usage et une élaboration d'outils dans des contextes pourtant ordinaires. Ça, j'y tiens parce que souvent, c'est pas le cas dans ce qu'on peut avoir sur le marché. C'est-à-dire une débutante à qui on n'a pas épargné toutes les dimensions les plus difficiles du métier, surtout quand on débute. C'est-à-dire, parfois on parle de difficultés liées à l'origine sociale des élèves. Bon, là, en l'occurrence, il y a une forte hétérogénéité, mais plutôt une, grosso modo, des élèves issus de milieux défavorisés, avec tous les guillemets qu'il faut, surtout pour un sociologue aujourd'hui. Dans les difficultés, il y a aussi l'instabilité, le fait qu'elle n'ait pas de poste fixe et puis qu'elle puisse pas espérer avant. Ça dépend où, si tu veux aller dans certains endroits, hein, juger complètement. Bon. Mais sinon, ça risque. Enfin voilà, quelque chose d'ordinaire, hein, par rapport à ça. Et pour un sociologue comme moi, c'est important aussi d'analyser des pratiques qui ne se déroulent pas dans un contexte idéal, où on voit la moitié des enfants, enfin on a pu voir, hein, dans des films qu'on a travaillé l'année dernière dans le séminaire maternel, où on avait l'impression que la classe se résumait à 8 gamins, et puis les autres, on savait pas où ils étaient. Enfin, voilà, vous voyez, bon, pour moi c'est important quand même, en contexte, hein, d'où le titre, hein, qu'on a donné, et puis des outils, des contextes. Voilà. Autre chose, pourquoi ça m'a semblé intéressant, c'est que ce sont des pratiques qui sont néanmoins peu banales, malgré ce contexte très ordinaire. Elles ont été repérées, en tout cas,
comme tel par l'institution. C'est pas moi qui ai fait ce choix-là. Ils ont été filmés par l'institution, et les films qu'on va présenter, alors, enfin, pour être sûr, en tout cas, ont été faits par l'institution, sans doute parce qu'elles étaient plus proches que d'autres, pratiques de débutants ou même de moins débutants, des prescriptions de l'institution. Hein, ce qu'on observe beaucoup dans notre recherche, c'est le hiatus très fort qu'il peut y avoir, les décalages très forts qu'il peut y avoir entre les prescriptions et les réalités du métier. Donc, on le voit à travers les yeux des débutants. Sans doute parce que sur certains aspects, et c'est à ça qu'il faudra qu'on réfléchisse, je pense, ça montre, on a des exemples de pratiques qui sont appelées de leur vœu régulièrement, aussi bien par les chercheurs, hein, je pense à là j'ai redécouvert Lantin dans les années 70, où il disait des choses qui sont assez proches de ce qu'on préconise aujourd'hui, que par des inspecteurs, par exemple Viviane Buis, ou par les textes officiels depuis au moins le début des années 70. Ce qui est vraiment peu banal, si j'en juge, les premiers résultats de notre recherche avec Sylvain Brocolicchi, depuis plus de 4 ans, sur l'entrée dans le métier. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va vous montrer des classes, des niveaux qui sont pas rarement pris comme objet d'étude, toutes petites et petites sections. Et moi, ça a pu aussi me permettre d'évaluer la robustesse du cadre théorique, qui est à l'origine de ce qui a été construit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, j'ai dit que c'était intéressant par certains aspects, que ça pouvait se rapprocher, que ces pratiques pouvaient se rapprocher de certaines prescriptions par certains aspects. C'est ça qu'on devait travailler. Alors, je peux commencer déjà à dérouler le fait qu'on voit des enfants dialoguer en petits groupes, ce qu'on voit pas toujours dans les classes. Alors, pour X raisons, hein, quand je demande à mes M2, c'est difficile à organiser, etc. Bon, mais c'est peut-être pas ça qui est le plus important pour moi dans ce qu'on va voir. Sinon, je serais pas venu pour vous montrer ça. C'est peu banal parce que ça montre aussi un niveau d'expertise étonnant pour un débutant, peut-être. Ça sera à vous d'en juger. Sachant que, moi, je me méfie de la posture, hein, un petit peu, j'allais dire scolastique, en tout cas pour les chercheurs, qui consiste à toujours trouver à redire de ce qu'on voit. Enfin, on l'a pu observer l'année dernière. Et ce qui est logique, hein, compte tenu du caractère largement bricolé, improvisé, incertain de la pratique, hein, dans l'urgence dans laquelle elle se déploie, elle se déroule. Et moi, j'ai toujours tendance, alors en tant que peut-être sociologue, mais à essayer de pas abuser de mon statut d'observateur assis derrière son ordinateur et à dire c'est pas comme ça qu'il faudrait. Enfin voilà, avoir cet aspect un peu prescripteur, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut et on doit partager quand on est en situation d'observation, prendre en compte les contextes dans lesquels se déroulent les pratiques et plutôt éviter le petit jeu qui est parfois intellectuel, qui est un peu dévastateur de dire c'est pas comme ça qu'il faudrait. Enfin, ce que disait un petit peu tout à l'heure Patrick, je pense pas que ça fasse toujours avancer les choses. Moi, et puis non, ce qui est le plus important dans ce que vous allez voir, enfin, de mon point de vue, c'est que ces pratiques qu'on va voir permettent de formaliser un processus très important dont le développement cognitif de l'enfant en général et son développement langagier en particulier. Et plus précisément, je vais analyser, c'est ça qui va revenir le plus souvent. Dans ce processus de développement cognitif et langagier, le processus dialectique mais qui est évoqué hein, dans le 8 page 3 de ce qui nous a été le point 8 page 3 de ce qui nous a été distribué, le processus dialectique de contextualisation, décontextualisation, faut pas que je dise trop vite, et recontextualisation qui structure ce développement. C'est ça qui je trouve assez intéressant à analyser dans ce qu'on va vous montrer. Alors, avant de vous le montrer, j'ai déjà abusé un peu du temps de parole que je m'étais accordé. Hein, c'est plutôt, ouais, c'est voilà. Domination masculine, c'est difficile. Hein, on a beau le savoir de se déprendre. Non, mais je vais quand même faire un petit point théorique parce que sinon Patrick va me dire que je suis venu juste pour parler 10 minutes et bon, quand même que j'exagère. J'ai prévu de reparler un peu à la fin si on a le temps. Je vais essayer ici, par rapport à ce processus de contextualisation, décontextualisation, de vous donner quelques éléments théoriques, mais je ne vais pas faire un petit cours, hein, parce que je sais à quelle heure vous êtes levé. Enfin, je ne vais pas reprendre la plaisanterie, mais parce que c'est pas le propos, parce que je suis persuadé qu'il vaut mieux peut-être en reparler après avoir vu les films. Mais je vais quand même vous donner un petit peu des éléments de cadrage. Pourquoi, d'après moi, ce processus est très important pour un sociologue, mais aussi, enfin, je suis aussi un peu psychologue, c'est-à-dire que je me suis beaucoup intéressé à la pensée de Vygotsky. Donc, je vais vous présenter juste deux auteurs, et encore dans ces deux auteurs, deux ouvrages. Premier, c'est un local, Bernard Lahire, sa magnifique thèse publiée sous le titre « Culture écrite et inégalité scolaire ». Comment ? Je suis encore trop... Ah là là, mais oui, ça me rassure de m'entendre. Pourtant, je déteste m'entendre d'habitude, mais tu vois. Et Vygotsky, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un livre vient d'être traduit, le dernier livre traduit en français, s'intitule « L'histoire du développement des fonctions psychiques supérieures ». Bon, le titre, je le dis plus vite ? Non. « Histoire du développement des fonctions psychiques supérieures ». Où je pense que... Alors, ça a été écrit dans les années 30, mais je pense qu'il y a encore des choses à découvrir pour mieux penser le développement de l'enfant, y compris en milieu préscolaire. D'ailleurs, ça fera l'occasion, cette sortie du livre sera l'occasion d'un colloque, je fais un peu la pub, qui aura lieu à Paris en juin. J'organise avec Jean-Yves Rochex et Yves Clos. Je reviens sur ces deux auteurs. Lahire, je vais y aller brièvement, parce que sinon je vais prendre l'heure. Qu'est-ce qu'il faut, enfin, à mon avis, pour nos affaires, ce qui est important de retenir, pour bien prendre en compte les différences de contexte dans lesquelles on peut mener des pratiques d'enseignement de l'oral en milieu préscolaire. Lahire a montré que pour beaucoup d'élèves de milieu populaire, une grande source de difficulté et d'échec scolaire tient à un usage du langage trop éloigné de celui qui est reconnu et valorisé à l'école. Reconnu et valorisé, j'y tiens. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, et avec une blague, les pratiques langagières de l'enfant à l'école de l'enfant d'institut ou d'enseignant. Un usage très contextualisé, on peut le définir comme ça, très proche à la fois du contexte d'énonciation et des contextes les plus familiers des élèves. Du coup, ça amène ces enfants, mais pas tous, de milieu populaire, en classe, à n'utiliser qu'une partie des possibilités qu'offre le langage pour expliciter des choses, pour dire des choses, indépendamment des contextes d'énonciation et indépendamment des informations qu'ils peuvent partager avec leur interlocuteur, des choses qui sont familières à un groupe. D'ailleurs, on parle souvent à cet égard de rapport oral-pratique. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point on est dans des des informations partagées, pour le coup. Et jusqu'à quel point je dois développer. Mais je pense que vous connaissez à peu près tous. Donc, parce que, alors, pourquoi il parle d'oral-pratique, rapport oral-pratique au langage ? Parce que ce type d'usage du langage est pratique lors d'interactions de face à face, à l'oral. Point n'est besoin alors de trop s'en dire pour se faire comprendre. On peut renvoyer directement à la situation d'énonciation ou alors à tout ce qu'on connaît, comme par exemple dans les vieux couples. On n'a pas besoin de trop s'en dire. Point n'est besoin de trop s'en dire. On peut se comprendre à demi-mot. Enfin, ça dépend des couples. Ça, c'est la première chose. Et le souci, c'est que c'est assez éloigné de ce qu'on demande de façon prioritaire, l'usage langagier qui est le plus valorisé et reconnu à l'école. Au contraire, c'est plutôt celui de la décontextualisation maximale, ce que Lahire traduit comme un rapport au langage scriptural et scolaire. Alors, rapport scriptural, pourquoi ? Parce que quand on écrit, quand on ne connaît pas destinataire, enfin certains destinataires en tout cas, on est bien obligé d'expliciter au maximum ce qu'on veut signifier, ne plus se reposer sur un contexte immédiat ou sur un contexte familier. Mais en revanche, sur la dimension scolaire, là, je le suis un petit peu moins. Et ça a été tout mon travail de thèse aussi. Pourquoi ? Parce que dans une classe, on a affaire à des membres, à des individus, les enseignants et leurs élèves, qui passent ensemble beaucoup de journées, ensemble, qui peuvent créer des significations partagées et du familier, du commun, des possibilités de se comprendre à demi-mot. Et heureusement, par exemple, le Tardif et le Sard ont beaucoup... évoquer et travailler cette question des routines, ce qu'on appelle peut-être vulgairement le cadre. Donc quand on y regarde de plus près, le langage scolaire, mais pas qu'en maternelle, moi je l'ai regardé aussi ailleurs, est composite. C'est-à-dire qu'on a à la fois une dimension très contextualisée, heureusement, parce que c'est ce qui permet aussi d'avancer dans la classe, mais aussi très décontextualisé et qui est le plus valorisé. Donc, à mon avis, quand on observe, on doit tenir compte de ces deux dimensions et de voir comment ces deux dimensions s'agencent dans la pratique. Mais, et là j'en viens à Vygotsky, c'est pas très éloigné de ce que a pu écrire Vygotsky, alors il y a très longtemps, à propos du développement langagier de l'enfant. Il montre, Vygotsky en particulier, et Brunner l'a magistralement démontré ensuite, que ce développement s'appuie sur la possibilité qu'offre le langage, la double possibilité qu'offre le langage, d'être utilisé d'une part pour désigner, communiquer de façon très contextualisée, ce qu'il appelait les fonctions indicatives de la parole, et d'autre part, la possibilité qu'offre le langage de penser de façon abstraite, pour alimenter une réflexion abstraite. Donc là, je pense qu'avec ces deux ancrages théoriques, on peut peut-être commencer à... On commence à être armé pour croiser les sphères, le croisement de la sphère d'expertise scientifique et la sphère d'expertise peut-être plus empirique, je la qualifie comme ça de façon générale. Mais si on le présente comme ça aux débutants, ou en tout cas aux interlocuteurs que vous pouvez peut-être avoir en face de vous, le risque, c'est le rejet, comme on a dit tout à l'heure, quoi. C'est trop théorique, ça ne répond pas à des aspects pratiques et aux urgences dans lesquelles on peut se trouver lorsqu'on fait la classe. Donc, on peut commencer comme ça, mais je pense qu'il faut avancer dans la voie du croisement. Et avant de laisser la parole à Isabelle, je vais juste dire deux mots par rapport à ça. Contextualisation, reprendre ce que j'ai dit, la contextualisation, l'usage contextualisé doit permettre d'indiquer, de désigner ce qui doit être l'objet d'attention et de réflexion pour le jeune élève. Pour ça qu'on doit de toute façon se servir de la contextualisation. Tout en étant contextualisé de telle façon à ce que c'est du sens pour les élèves, mais pour tous les élèves. Et ça reprend le point 12 de la page 1 ou le point 8 de la page 2. Hein, c'est des questions que vous avez développées tout à l'heure. Contextualiser pour avoir du sens, en s'appuyant sur l'ici et maintenant de la situation d'énonciation, en renvoyant aux expériences, alors quel type d'expérience on verra tout à l'heure, et des connaissances communes ou pas de tous les élèves, le tout en essayant d'éviter le risque d'enfermer l'attention et la réflexion sur les aspects les plus contextualisés, ce qu'on a essayé de montrer dans les travaux d'école. Donc, comment résoudre cette équation impossible? En essayant d'aménager des voies de décontextualisation progressives, praticables pour tous les enfants, tous les élèves, y compris ceux qui sont dans un rapport, qui sont le plus dans un rapport oral-pratique. Comment faire? Défi impossible. Peut-être que je pense que ce que va montrer Isabelle peuvent constituer des exemples, hein, mais il y en a d'autres, mais c'est cela que on a choisi de vous présenter, étant donné que ils ont été pensés dans ce type de réflexion et ce type de cadre théorique.
Donc, moi, je vais vous ramener dans la classe. Donc, comme l'a dit Christophe, les séances de langage dont je vais parler et dont je vais vous projeter des extraits n'ont pas été pensues exprès pour certaines situations. Il y a bien des fois où j'ai vu la caméra arriver, c'était pas prévu. Donc, voilà, c'est des séances qui ont des défauts, sans doute, mais qui constituent, je pense, des pistes possibles de faire du langage, peut-être différemment, en tout cas de les penser différemment. Donc je vais déjà commencer par faire un petit point très rapide, puisque dans la salle ici, je pense que tout le monde est au fait sur ce sujet-là, le langage dans les programmes. Donc je pense qu'il est important de rappeler que ce soit dans les programmes de 2002 ou encore dans ceux de 2008, le langage occupe une place centrale. Il a été qualifié donc dans les programmes ou les textes d'accompagnement d'axe majeur, d'objectif essentiel, de pivot des apprentissages, etc. Il fait l'objet aussi d'un domaine à part entière, d'un domaine d'activité à part entière. Son acquisition doit être pensée, nous rappellent les textes, de manière transversale. Il ne doit pas être envisagé donc aux dépens des autres domaines d'activité, mais à partir de ces derniers. Donc, même si effectivement il faut consacrer des temps dédiés à l'acquisition du langage, c'est aussi important qu'il s'exerce dans l'ensemble des activités proposées aux élèves. que ce soit des histoires qui leur sont lues, les différents ateliers, les activités motrices, etc. Il fait donc l'objet d'une attention constante donc de la part des enseignants. Et les situations qui doivent être proposées aux élèves doivent être ainsi articulées les unes avec les autres, qu'elles appartiennent à un domaine précis, à plusieurs domaines. Voilà, quel que soit en fait le contenu, on a toujours en tête langage. Et vous verrez à la fin de l'exposé, je vais vous présenter une petite vidéo. L'atelier était un atelier de motricité et il y a eu une occasion qui s'est offerte à moi et j'ai fait du langage avec un enfant. Voilà. Donc l'objectif visé donc dans les programmes, c'est l'acquisition par tous les élèves d'un langage oral riche, organisé et compréhensible par l'autre. Cet objectif est envisagé donc selon trois entrées, la capacité à échanger, s'exprimer, la compréhension et la maîtrise progressive des composants clés de la langue, qui sont donc le lexique et la syntaxe. Donc je vais commencer par vous parler des temps spécifiques dédiés au langage à la maternelle. Donc si c'est assez fréquent d'entendre parler de séances de langage à l'école maternelle, que mettre derrière ces termes ? Des séances de langage, oui, mais pourquoi faire ? Donc pour qu'une séance de langage mobilise l'intérêt et la participation des élèves, je pense qu'il faut qu'ils en aient besoin, qu'ils se sentent concernés. Cette donnée-là apparaît d'ailleurs dans le questionnaire qu'on a pu voir, c'était l'intérêt des enfants pour ces séances. Donc en effet, apprendre des mots, faire des phrases, c'est très bien pour les enseignants, mais pour les enfants, ça ne peut devenir une activité pertinente que si cela leur permet de construire une signification, la compréhension d'une situation, une possibilité de s'exprimer sur un sujet donné. Donc dans cette partie, on va vous présenter différentes situations langagières possibles, existantes, dédiées donc à l'acquisition du langage à l'école maternelle, donc sur un temps consacré vraiment au langage. Donc les séances de langage liées directement à l'expérience des élèves. Les textes officiels le soulignent bien, l'acquisition du langage doit se faire en s'appuyant sur l'expérience des élèves, ce qu'ils vivent en classe, de manière directe ou indirecte. Dans un premier temps, donc, il est possible de permettre aux élèves d'acquérir le vocabulaire usuel, celui du quotidien. Donc, pour certains enfants, ce vocabulaire ne présente aucune difficulté particulière, puisque leur appartenance à un certain milieu social favorise son acquisition par la famille, en fait. Les parents ont un rôle actif à ce niveau-là. En revanche, dans beaucoup de milieux, dans les milieux, on va dire, dits défavorisés, où les enfants n'ont pas cette chance d'avoir des parents disponibles à l'écoute de ces besoins-là, ou même dans le cas, comme on l'a entendu ce matin, d'enfants plurilinguistes, l'école a un rôle très important à jouer donc, dans l'acquisition du vocabulaire du quotidien. Acquérir le vocabulaire du quotidien en utilisant les coins cuisine. Donc, afin d'acquérir le vocabulaire dit du quotidien, il est fréquent de voir dans les classes l'utilisation des différents coins. Ces coins représentent une source d'inspiration pour les séances de langage. De fait, ils sont organisés et permettent de présenter aux élèves un ensemble d'objets thématiques, les poupées, le garage, la cuisine, etc., auquel, de fait, est associé un ensemble d'objets que l'on pourrait même qualifier de champ lexical. Dans la cuisine, on va trouver des éléments qui vont ensemble. Donc, nous allons vous présenter ici une situation de langage qui prend donc appui sur une série de photographies dont le nombre varie au cours de l'année, d'une ou deux en début de toute petite section à un nombre plus élevé en fin d'année ou selon les niveaux. Là, ce qui est important, c'est que les photographies, bon, elles doivent s'adapter à la section en question. Donc là, moi, je vais vous parler de toute petite section. Mais si on l'envisage en grande section, le nombre de photos, le type de photos est complètement modifiable et adaptable. Donc les situations sont pensées en lien avec la mascotte. Pourquoi la mascotte de la classe ? Eh bien pour que tous les enfants se sentent concernés par ce qui est présenté sur la photo. Et aussi pour dépasser le fait de « Oh, c'est Julie ! Oh, c'est Marion sur la photo !» Parce que j'ai essayé avec des photos d'enfants et c'est vrai que les enfants restent attachés à « C'est un tel ou un tel sur la photo » et on n'arrive pas à les amener finalement vers l'objectif langagier qu'on s'était fixé. De plus, la mascotte occupe une place importante dans la classe et mobilise d'une manière générale l'intérêt des enfants. Ça fait appel à leur affectif, ils sont motivés et ce que la mascotte fait, c'est aussi important pour eux, donc ça les intéresse. Dans un premier temps, on propose de présenter des photographies qui vont faire écho à des situations vécues par les élèves. Les élèves sont donc placés dans une situation dont le degré de contextualisation peut être qualifié de maximal. L'ensemble des éléments, qu'ils soient liés au lieu de l'action, à l'action elle-même, sont parfaitement connus des élèves et les placent dans une situation les rapprochant de l'ici et du maintenant des interactions de face à face. Cet aspect donc semble important car si la nouveauté de la situation n'est pas un élément en jeu, il est possible donc de se concentrer sur le langage lui-même. Les élèves donc ont à leur disposition un nombre très grand de repères stables. De plus, si la situation donc a été vécue au préalable, on peut amener progressivement une décontextualisation du langage, faisant plus ou moins appel à leur expérience passée. Les élèves sont donc plus de fait en situation, ils se trouvent éloignés de l'ici et du maintenant, mais le ramènent par leur proposition langagière en faisant écho à ce qu'ils ont vécu. Mais cette question de la décontextualisation, on l'abordera plus tard dans l'exposé. Donc là, lorsque je vais vous parler de situation, le terme est à prendre au sens large. Dans un premier temps, les photographies n'auront par exemple qu'un lien thématique, comme sur la diapositive qui vous est projetée. Les photos donc sont liées ici au coin cuisine. La situation dont on parlait tout à l'heure, ici, c'est le coin lui-même. Les élèves donc, ont au préalable fréquenté ce coin. Ils y ont joué, soit de manière libre, soit en atelier avec la TSEM ou en atelier dirigé. Ça ne présente donc plus un caractère novateur pour eux. L'espace est connu, les objets le sont aussi. C'est un espace qui est partagé par tous les enfants. Ils y sont tous allés, au moins une fois. Donc, les photographies présentent ici, par exemple, la mascotte avec un verre ou une assiette ou encore une petite cuillère. Elles sont donc détachées les unes des autres. Il n'y a pas de lien narratif entre elles. On peut les présenter dans un ordre aléatoire. Donc, par rapport à une séance de langage, on va dire en situation directe, c'est-à-dire que la séance de langage a lieu dans le coin cuisine lui-même, les enfants donc peuvent manipuler les objets. Ici, on a la fixité des éléments. On a un seul cadrage, un élément présenté sur la photo, ce qui permet de faire converger l'attention de tous les enfants vers la même chose. Les objectifs donc visés par un temps de langage utilisant ces photographies. Donc ces photographies sont thématiques. L'objectif est à chaque fois de nommer l'objet en l'associant à une action. L'objet n'est pas présenté seul. Comme vous pouviez le voir sur la photo, la mascotte donc, qui s'appelle Souris Verte agissait sur un objet. Donc c'est elle qui manipule. Dans ce cas, l'enseignant peut donc formuler des phrases ou amener les élèves à le faire. En amorçant le début, par exemple, souris verte, fait, ou que fait souris verte, elle a pris, et on attend qu'il donne le mot. Donc, la phrase permet ainsi d'inclure le mot cible, par exemple le nom de l'objet, dans un contexte et de lui associer une fonction ou une utilisation, et ainsi de dépasser la simple fonction référentielle du langage vis-à-vis de l'objet cible, en l'associant à une action. Les élèves vont être ainsi amenés à associer différentes classes d'actions à une fonction ou à une utilisation. Donc voici un exemple un peu plus détaillé. Le mot cible ici est le mot assiette. Donc l'enseignante peut ainsi dire « souris verte a pris une assiette » et on attend la suite. On peut amorcer la fin parce qu'elle va manger. Cette structure de phrase, certes complexe, peut être malgré tout présentée dès la toute petite section afin de faire baigner les élèves dans un bain de langue qui, à force d'imprégnation, permettra une familiarisation de cette structure complexe. L'assiette est associée donc à une de ces utilisations. On prend une assiette pour manger. Donc, selon les élèves que l'on a en face de nous, on peut aussi dire « souris verte a pris une assiette, pourquoi ? Que va-t-elle faire avec ? » Là, différents types de réponses sont possibles. Elle va manger, elle va la laver, la ranger, la mettre dans le placard, etc. Après, à nous de rebondir sur la réponse qu'on espérait attendue. L'important, finalement, dans ce type de séance, c'est de dépasser le fait de nommer. Nommer l'objet est une étape certes indispensable, mais elle ne doit pas être dissociée de celle de formuler une phrase qui contextualisera le mot cible d'un point de vue linguistique en s'appuyant sur un contexte extralinguistique, celui de la photographie. Les objectifs de ce type de séance sont doubles. Il faut donc nommer l'objet et lui donner un contexte d'utilisation, mais aussi et surtout formuler des phrases correctes, de plus en plus complexes, ce qui permet d'utiliser davantage les ressources linguistiques permettant les mises en relation et la création sur le plan donc linguistique d'un contexte qui permet de prendre des distances avec le contexte extralinguistique, la photographie. Donc maintenant, je vais vous parler de séances de langage que l'on pourrait qualifier de narrative, liée à une expérience vécue. Donc effectivement, on peut présenter des photos thématiques, mais on peut aussi présenter des séances de langage construites selon un fil conducteur narratif qui, dans un premier temps, prend appui sur une expérience vécue par les élèves. Par exemple ici, il s'agit de la décoration du sapin de Noël. Donc ça, ce ne sont pas les photos qui servent de support à la séance de langage. Je vous les ai présentées afin de montrer que les enfants ont bien vécu la situation. Ils l'ont vécu avec un matériel, un certain nombre de guirlandes, de boules, qui sera réutilisé donc avec les photos. Donc, pour ne pas avoir un caractère novateur, si je leur présente les photos ici où on voit la mascotte qui décore le sapin, s'ils ne l'ont pas fait avant, c'est nouveau pour eux. Certains ne l'auront même jamais fait avant, puisque dans ma classe de toute petite section, ils ont 2 ans. Pour les plus vieux, c'est 2 ans et demi. Donc la décoration du sapin de l'année dernière, ils ne s'en souviennent pas. Pour eux, ils l'ont fait la première fois en classe cette année. Donc avant, je leur ai fait décorer le sapin. Et après, j'ai présenté les photos de la mascotte qui décore le sapin avec le même matériel qu'eux. Donc là encore, du coup, la situation, le matériel utilisé n'est pas nouveau. L'objectif de la séance, voilà, ça va être de mettre des mots sur ces actions. Ces photos nous racontent une petite histoire. Elles fonctionnent finalement comme des images séquentielles. Là, l'ordre dans lequel on va les présenter a une importance. Pour pouvoir mettre des mots dessus, ils vont quand même devoir faire appel à ce qu'ils ont fait eux. Ils l'ont vécu, ils vont pouvoir donc s'exprimer. Donc je vais vous montrer la séance de langage qui a été filmé avec la présentation de ces photos.
Mais elle m'a envoyé des photos. Elle a décoré quelque chose. Viens, attends.
Souris verte a le droit à un câlin, on lui dit bonjour. Donc, un des éléments qui n'est pas sur la vidéo, c'est que Souris Verte, normalement, est accrochée sur le tableau et quand les enfants rentrent, ils la voient. Ce matin-là, Souris Verte n'était pas là. Elle était partie, alors ils ont cherché, ils ne l'ont pas trouvée, heureusement pour moi. Et en fait, voilà, souvent quand on a une séance de langage comme ça, un peu narrative, je cache la souris à l'endroit indiqué par les photos et en fin de séance, les enfants vont chercher la mascotte. Et ça fait un lien concret et direct avec ce qu'ils ont vu, la souris est à l'endroit où elle a fini sur la dernière photo. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette séance, c'est déjà de voir l'intérêt des enfants. J'arrive à les tenir un certain temps. Ils sont tout petits, c'est pas toujours facile. Il y a des jours où ça marche beaucoup moins bien, ça c'est sûr. Mais voilà, ce que fait la mascotte les intéresse. Et le vocabulaire revient assez rapidement parce que bon, quand ils l'ont fait, on a déjà beaucoup nommé les choses. Et là, c'est une manière de le reconvoquer à nouveau dans un contexte qui ne se déroule pas sous leurs yeux directement. Ils ne revivent plus la décoration du sapin avec leur corps. Ils l'ont fait dans un premier temps. Et là, on est sur une représentation de la situation. Donc voilà, je ne sais pas Christophe si tu veux rajouter quelque chose sur par rapport à la vidéo.
En tout cas, ce que vous avez bien vu, c'est le fait que le sapin côtoie la représentation du sapin.
Ils l'ont à côté d'eux et ils y ont recours. Quand le mot sapin de Noël ne vient pas, c'est là. Ils me disent c'est là. Et en fait, ils sont en train de me montrer le sapin de Noël décoré.
Ils disent c'est là que quand on a t'as commencé à permettre la manipulation de la mascotte au sein du sapin. On était retourné dans le contexte immédiat, ici et maintenant. Alors qu'avant, c'était pas possible. Et du coup, enfin bon, j'en reparlerai tout à l'heure, mais ça ouvrait de nouvelles possibilités, le fait que sur la tablette soit représenté ce qui existait à côté.
Donc maintenant, je vais vous présenter, surtout je vais vous parler de séances de langage donc, qui sont liées indirectement à l'expérience des élèves. Donc nous allons maintenant donc, nous intéresser finalement à la manière dont on peut amener les élèves à décontextualiser le vocabulaire qu'ils apprennent. Donc je vais en revenir à mes coins de classe. Donc ces espaces que les élèves connaissent bien représentent donc un support privilégié pour différentes séances. Donc on va continuer avec le coin cuisine, qui, par son contenu, présente un réel intérêt quant à l'acquisition du vocabulaire du quotidien, puisqu'on a le verre, les assiettes, la fourchette, la cuillère, le couteau, plus les aliments de première utilisation. Donc je vous ai présenté tout à l'heure une séance à partir de photos, et donc je vais repartir un peu de cette séance-là pour vous montrer comment on peut décontextualiser en fait le vocabulaire abordé par ces photos, finalement un peu refaire une sorte de progression. Donc on peut penser une séance de langage dans le coin donc lui-même. Les enfants vont donc pouvoir manipuler directement les objets, les nommer, en parler en situation. Sous donc, le questionnement de l'enseignant, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu as appris, etc. On peut aussi donc, penser des séances de langage, cette fois au coin regroupement, avec le matériel de cuisine. Donc c'est à ce moment-là, on sort les objets, par exemple donc, le verre, de son contexte initial, de sa place habituelle. Donc les enfants sont ainsi amenés à envisager les objets en dehors du coin cuisine, en dehors de leur contexte d'utilisation directe. On peut aussi, et là c'est une autre étape, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, présenter des photographies des objets dans le coin. Donc l'utilisation des photographies donne à tous les élèves, je l'ai évoqué également tout à l'heure, un même point de vue sur un objet. Ce qui permet d'attirer l'attention de l'ensemble du groupe sur un même point. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les enfants au fait que la photographie est une représentation. C'est le même verre que celui du coin cuisine, mais on ne l'a pas en main. On ne peut pas le manipuler. Donc, dans ce type de situation où on présente les photos, donc les enfants ne sont donc plus directement en situation, mais peuvent faire appel à leur expérience de jeu. Il s'agit donc toujours du même verre, mais il n'est pas réellement face à eux. C'est son image qui est utilisée. La décontextualisation donc permet d'amener progressivement les élèves à construire la signification du mot verre dans son ensemble. En effet, le mot dans un premier temps est associé à un objet dans un contexte précis, celui du coin cuisine. Progressivement, cet objet va être détaché de ce contexte. Et le mot, finalement, vert, va se fixer non plus sur l'objet plus son contexte, mais sur l'objet seul. Et finalement, ce que l'on appelle vert dans le coin cuisine, ça s'appelle toujours vert dans le coin regroupement, et ça s'appelle même encore vert dans le couloir. Donc, petit à petit, l'enseignant va permettre aux élèves de conceptualiser le mot vert en ne l'attribuant plus seulement à celui du coin cuisine, mais à l'ensemble des objets auxquels ce concept fait référence. Partir du verre du coin cuisine, qui est un élément familier, bien connu de l'ensemble de la classe, permet dans un premier temps de situer l'objet dans un contexte très marqué. On se centre ainsi sur l'apprentissage du nom de l'objet, de ses premières fonctions et ou utilisations, qui sont donc liées dans un premier temps directement au contexte du jeu dans le coin cuisine. Ces apprentissages constituent ainsi une base solide, puisque très concrète et très familière, qui permettra ainsi aux élèves d'accéder par la suite au concept du mot lui-même, de mettre en relation ce mot avec d'autres, de lui associer des fonctions et des utilisations différentes, sans pour autant les vivre directement. Mais en passant donc par la décontextualisation qui se fera de manière de plus en plus globale. Donc, on peut faire une remarque quant à l'aspect de la dinette du coin cuisine. Si dans votre tête, bon alors là je vous ai pas beaucoup parlé du coin cuisine, mais si en début je vous avais dit pensez à un verre, vous auriez peut-être vu un verre à pied, un verre à eau, un verre de type gobelet, etc. Mais sûrement peu d'entre vous auraient imaginé le verre du coin cuisine. Le matériel donc qu'on a à disposition dans ce coin est donc bien une représentation stylisée des objets réels et non une reproduction miniature de cette réalité. Ce sont des objets qui, dans un premier temps, ne peuvent être attachés qu'à un seul contexte, celui du coin cuisine, du coin jeu, ce qui favorise, pour ainsi dire, l'apprentissage, puisque tous les élèves vont penser à la même chose à ce moment donné. Quand on est dans le coin, qu'on lui dit, on va dire, donne-moi un verre, pense à un verre, il faut immédiatement penser à celui-là. Du moins, on peut le supposer. Progressivement, l'assimilation de ce mot, de ses fonctions, etc., va permettre à l'enseignant et aux enfants de décontextualiser l'objet, son nom, de faire des liens avec la réalité. Le matériel, donc, veut faire écho à ce que les enfants peuvent rencontrer chez eux, mais finalement, par sa stylisation, on s'en éloigne de cette réalité, mais c'est pour mieux y revenir en fin d'apprentissage. Donc il y a un jeu comme ça, un va-et-vient entre réalité et représentation. Donc maintenant, donc, pour parler de la décontextualisation, je vais vous parler d'une situation qu'on peut qualifier donc d'intermédiaire entre à la fois forte contextualisation et décontextualisation. Donc une autre manière possible d'amener les élèves à décontextualiser les objets de la classe, les mots qu'ils apprennent, c'est de les placer dans une situation que l'on peut dire intermédiaire, puisque les enfants vont être, comme vous pourrez le voir par la suite, face à des photographies d'objets, de matériel lié à la classe, donc à un contexte marqué, celui de la classe, des coins-jeux, etc., et vont établir des liens entre leur expérience de la classe elle-même et ce qui est présenté sur la photo. Donc lors de la séance que je vais vous présenter, là vous allez voir certaines photographies qui ont été utilisées lors de la séance. J'avais fait cacher par la mascotte des morceaux de tissu et de plastique, etc., dans la classe. J'ai pris la mascotte en train de cacher ces objets. Et j'ai présenté les photos aux élèves. Donc, les élèves devaient, donc, dans un premier temps, décrire ce que la mascotte faisait, où elle était. Donc, on localisait l'action à partir de la photo. Puis, on localisait l'action dans l'espace réel de la classe. Et enfin, on validait la réponse des enfants en allant effectivement sur le lieu de la photographie vérifier s'il y avait bien quelque chose ou pas. Alors là, je vais vous montrer une autre petite vidéo. Donc là, c'est dans une autre classe. Là, j'ai un groupe de tout petits, petits. En fait, c'était une classe de tout petits, petits, moyens. Et le temps de langage se faisait... Je séparais les moyens et les tout petits, petits. Et là, c'est donc avec des tout petits, petits.
Et il veut... Il veut faire quoi? Non, il veut pas faire à manger. Il veut... Non, tout est assez bien. Il veut où?
Vous avez le son?
Mais pas l'image. Alors... Donc sur cette vidéo, en fait, on voit, c'est une situation assez complexe, présentation des photos, où est-ce que c'est, on localise dans la classe qui était très grande, j'avais de la chance sur ce remplacement-là, j'avais une très grande classe, on va chercher dans la classe, l'armoire de la classe était fermée, et sur la photo, elle était ouverte. Donc il fallait faire le lien, c'était la fin de travail sur les différents espaces de la classe. Donc à la fin, la petite va vérifier dans l'armoire, ne se trompe pas d'armoire, elle trouve le tissu, le ramène. Et là, on a un autre travail. On aboutit à la comparaison de la matière. C'est doux comme. Je ne trouve pas le mot doudou. Le mot est amené. Et on compare avec un objet réel qui n'est finalement pas dans la situation initiale. On ramène le doudou dans notre contexte de départ, mais ce n'était pas celui-là. Ce n'était pas le contexte prévu initialement. Et donc finalement, on a une première catégorisation. Ce morceau de tissu qui n'est pas propre au doudou, puisque c'est aussi la même matière pour les vêtements d'enfants, etc., finalement nous permet de faire un lien entre une matière, un objet, et cette matière est donc une des caractéristiques de cet objet. Et on a une première mise en lien qui se fait. Donc voilà. Et c'est donc une séance où j'utilise le zoom, ce que je n'ai pas fait dans la vidéo précédente avec les tout-petits.
juste vous montrer mon point de vue, ce que j'y ai vu, moi, ou ce que j'ai voulu y voir, pour en discuter. Mais voilà, je vous avais parlé tout à l'heure de voie de décontextualisation, hein, qui peut passer aussi par de la recontextualisation. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est montrer comment ça pouvait s'analyser, qu'est-ce qu'il y avait de commun dans ce qu'on vous a montré, ce qu'on aurait pu vous montrer si on avait eu plus de temps ou si on avait fait autrement, ce qu'on avait prévu de faire en tout cas. C'est que, bon, voilà, on essaie de trouver des voies, à chaque fois en se posant la question des caractéristiques de certains élèves, comme je vous ai dit, qui ont l'habitude d'un usage très contextualisé, partir d'où ils en sont, du fait qu'ils n'utilisent pas exclusivement comme canal de communication l'oral, beaucoup moins que d'autres élèves, et donc en s'appuyant sur les éléments du contexte et comment ils peuvent communiquer à partir de ce contexte. En particulier, alors là on n'a pas vu dans d'autres séances, mais ça peut être le tactile, ça peut être, et puis la perception visuelle. Donc essayer de vous montrer comment on part de ce contexte et comment on décontextualise progressivement, mais pas brusquement, comme on peut voir parfois avec on parlait de support tout à l'heure, les usages de certains albums ou même des albums écho qui s'appuient sur le décalage temporel et donc une rupture beaucoup plus forte avec le contexte immédiat. Là, on voit plutôt des voies intermédiaires, des va-et-vient entre ce qui est contextualisé et décontextualisé. Enfin, je pense que c'est ça qui est le plus récurrent. En tout cas, c'est ce qu'Isabelle a essayé de chercher à faire. Mais à chaque fois, ce qui se joue, c'est on coupe progressivement certains éléments du contexte. Soit c'est la perception visuelle. Alors, on l'a pas vu, mais parfois, elle utilise des caches, les boîtes opaques. Enfin, on n'est pas les seuls. Elle n'est pas les seuls à le faire. Là, ce qu'on a vu beaucoup plus, c'est l'éloignement spatial. On voit pas toujours, même quand c'est juste à côté. Le recours au corps aussi, l'éloignement spatial qui permet pas de toucher ou même de désigner. On a vu à un moment quand il était de nouveau quand de nouveau le sapin était dans le contexte immédiat, dans ce qui faisait l'objet de l'attention commune. Là, du coup, on a revu des usages un peu déictiques du langage, beaucoup plus contextuel. Ah bah c'est là-bas. Hop, en désignant le sapin, alors que c'était beaucoup moins le cas quand on montre juste un élément et pas tout le contexte, et du coup les élèves ont tendance à développer un autre type d'usage du langage qui correspond beaucoup plus à celui qui est attendu. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est progressif et graduel. Parce que ça permet quand même, in fine, d'orienter le langage, de le canaliser sur un objet, sur un découpage de la réalité, hein, en particulier avec les tablettes, pour attirer et cadrer l'attention, fonction indicative du langage très contextualisé, mais pour utiliser le langage de façon plus décontextualisée que les tendances, que j'allais dire presque l'habitus de certains élèves. Pour orienter le développement des significations vers les conventions langagières scolairement valorisées, on en parlait tout à l'heure lors de la précédente conférence, hein, quelque chose de plus analytique. On l'a vu avec le doudou et le tissu, on décompose des catégories, hein, on prend un morceau et puis on décompose. On a vu tout à l'heure que c'est comme ça que se développait le langage, à la fois les catégories d'analyse et le lexique de plus en plus fin, le tissu comme un élément du doudou, et puis de façon plus décontextualisée, explicite, hein, moindre usage, comme je l'ai dit tout à l'heure, des mots index, c'est-à-dire des mots dont le sens varie avec la situation dans laquelle ils sont employés, les pronoms, les articles indéfinis ou les déictiques, ça, là... Donc voilà moi comment j'analyse un petit peu. Enfin, je pense que ce qui est intéressant, c'est cette espèce de va-et-vient entre contextualisation et décontextualisation. Qu'est-ce qu'on fait varier dans les situations, dans les éléments du contexte? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on décide de ne plus permettre aux élèves, faire en sorte que les élèves ne puissent plus s'appuyer sur certaines ressources de l'oral, qui est faite de perceptions mutuelles et immédiates? Voilà, à mon avis, des façons de faire qui sont un peu intéressantes, aussi avec différents types de contextualisation, comme on l'a vu tout à l'heure, alors je ne sais plus à quel propos, mais une contextualisation linguistique, mais aussi, et pas simplement un extra-linguistique, avec une référence immédiate à la situation présente, mais en fonction de ce qui a été dit avant. Voilà.